Aujourd'hui, nous consacrons notre séance à la question de l'enfermement hors des murs de la prison. Dans la réflexion en sciences sociales, trois lieux émergent comme des figures emblématiques de l'enfermement. La prison, d'abord, dont Michel Foucault nous a expliqué qu'elle était là pour surveiller et punir. L'hôpital psychiatrique, ensuite, dont Erving Goffman nous a rappelé que, comme institution totalitaire, elle était là pour organiser la vie des individus, mais qu'elle n'était pas sans susciter des résistances. Et plus récemment, les travaux de Michel Agier témoignent de la façon dont le camp est devenu un outil majeur du traitement des réfugiés. Mais sur le continent africain, une autre expérience permet d'interroger à nouveau frais la question de l'enfermement, de ses logiques, de son expérience, mais également de ses contradictions. Cette expérience, c'est celle des traitements, des centres de traitement Ebola, mis en place entre 2014 et 2015 dans les trois pays de la Manor River pendant l'épidémie d'Ebola. Ces trois pays de la Manor River, ce sont la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Véronica Gomez-Temesio, que nous recevons aujourd'hui, a réalisé une ethnographie de plusieurs mois dans un centre de traitement guinéen, à Wonkifong. Actuellement chercheuse à l'Université de Copenhague, elle a accepté de partager avec nous son analyse. Bonjour Véronica.
Bonjour Frédéric.
Véronica, est-ce que tu peux nous dire concrètement en quoi consiste un centre de traitement Ebola ?
Tout à fait Frédéric. Donc, les centres de traitement Ebola, ou ce qu'on appelle donc les CTE, sont des lieux dans lesquels on va regrouper, en fait, enfermer toutes les personnes qui sont atteintes du virus Ebola. Donc vraiment, plus que des centres de soins, ce sont en fait des lieux de quarantaine. Car quand le virus commence à circuler dans la société, donc les épidémiologistes préconisent donc de casser les chaînes de transmission afin d'éviter que le virus ne se propage trop. Et donc, dans ce but, il faudrait idéalement placer toutes les personnes atteintes, toutes les personnes malades, dans un espace fermé, dans un lieu de quarantaine, comme Wonkifong, dont on a vu la photo à l'écran. Et donc, pour ce faire, on va mettre en place partout dans les pays touchés par l'épidémie, des centres fermés dans lesquels du personnel va traiter les malades en tenue imperméable.
Mais alors, Véronica, pourquoi semble-t-il pertinent de penser ensemble centre de traitement Ebola et prison ?
Alors, c'est vraiment pertinent de les penser ensemble, car tout d'abord, ce sont des espaces clos, en fait, des espaces fermés, dans lesquels on va enfermer en fait, des populations que l'on juge dangereuses pour le reste de la société, tant à niveau national que global. Donc, plus qu'à une logique de soins, dans les CTE, on a vraiment affaire ici à une logique de contrôle du risque, comme avec la prison. On va regrouper des populations dans des lieux fermés afin de protéger le corps de la société.
En fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il y a un paradoxe inhérent au CTE où on a à la fois une promesse de soins, mais aussi une pratique de contrôle.
Oui, tout à fait. En fait, dans le projet du CTE, il y a ces deux logiques. C'est isoler le virus et soigner les malades. Donc, on voit ici un soignant avec un jeune enfant. On pourrait dire que ces deux logiques, si tu veux, c'est la théorie du CTE, c'est ce qui sous-tend la construction de ces centres. Mais en fait, dans la pratique, il faut vraiment souligner le fait que la logique du contrôle prend le pas sur le soin. Et cette logique, elle va se diffuser en dehors même du centre. Je vais te donner un exemple. Oui. Tu sais notamment que pendant l'épidémie, en fait, toute personne qui était porteuse de symptômes assez généraux, comme mal de tête, diarrhée, vomissement, toutes ces personnes-là, en fait, vont être envoyées dans des centres pour se faire détecter, pour se faire dépister. Et on va avoir comme ça pendant l'épidémie, dans les quartiers ou les villages qu'on juge à risque, où on pense qu'il y a des porteurs de virus, des campagnes de ce qu'on appelait alors des campagnes de ratissage. On va aller chercher ces gens qui ont des symptômes assez généraux et les prendre et les envoyer de force dans des centres où ils vont séjourner plusieurs jours et peut-être risquer une contamination mortelle si en fait, leurs symptômes en fait, ne sont pas liés à Ebola. Donc on trie, on a vraiment affaire ici à une logique de triage, parce qu'on trie des vies que l'on juge dangereuses afin de protéger d'autres vies que l'on juge importantes de protéger. Et quand je dis ça, je fais référence spécifiquement aux fonds financiers massifs qu'ont envoyés les États-Unis et l'Europe en Afrique de l'Ouest pendant l'épidémie, des fonds qui étaient destinés à sauver des vies, certes, mais surtout en fait, à éviter qu'Ebola n'arrive jusqu'à nous.
On voit bien dans ce que tu nous expliques que la notion de contrôle du risque, que ce soit risque épidémiologique dans les CTE ou risque contre les illégalismes dans les prisons, est en commun, est tenue en commun par les CTE et les prisons. Mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs ou d'autres notions ou points qui sont partagés dans ces deux espaces ?
Oui, alors, écoute, les CTE et la prison, en fait, ont plein de points communs. Je te donne d'abord le plus évident, c'est l'architecture. Ce sont des lieux fermés. Quand on est envoyé dans un CTE, on ne nous demande pas notre avis, donc on va être envoyé là-bas, et on va en sortir que lorsqu'on nous dit d'en sortir. On voit d'ailleurs ici les barrières de Wonkifong. On va laisser nos effets personnels à l'entrée, on va laisser nos habits, on va en recevoir de nouveau, on va recevoir un numéro d'identification. Et donc, il y a vraiment une redéfinition de la personne dès les premiers pas dans l'espace d'enfermement. Et cela va sans doute te rappeler l'expérience de mortification décrite par Erwin Goffman et que tu connais bien. Mais je pense que le plus important ici, c'est que les CTE et la prison, ils partagent en quelque sorte une définition de la vie ou une philosophie de la vie. C'est-à-dire que dans ces lieux, en fait, le patient, comme le détenu, va vivre un processus de déshumanisation. Et je fais référence ici aux travaux d'Anna Arendt, que tu connais certainement. Donc Anna Arendt a pensé le camp comme un lieu où la personne est démise de sa vie politique. Et dans ce sens-là, en fait, on va voir que dans les CTE, la personne va être réduite à un corps toxique que l'on doit gérer. Un corps qu'on doit nourrir, laver, habiller, mais cette personne-là va être démise de tous ses droits. Mmh. Et le plus terrible, sans doute, c'est que cela dure jusque dans la mort. On voit ici les tombes où plus de 150, les tombes des patients qui font, donc le cimetière où plus de 150 patients ont été enterrés, et ils l'ont tous été dans des tombes anonymes. Donc les familles ne savent souvent pas où sont enterrés leurs proches, et ces personnes-là ont été enterrées sans autre forme de procès, sans enterrement, sans accompagnement social ou familial.
On voit bien dans ce que tu nous expliques que le stigmate survit à l'expérience même du CTE. Et ce qui est frappant, c'est que cette logique-là, elle s'applique également aux détenus qui, après la prison, restent porteurs d'un stigmate. Mais à ce moment-là, on a envie de savoir si, comme dans les prisons, face à cette déshumanisation, est-ce qu'on observe des formes de résistance ou bien des accommodements tels qu'ils ont été décrits, par exemple, dans les hôpitaux psychiatriques par Erwin Goffman ?
Alors oui, il y a des résistances parce que évidemment personne ne peut être jamais complètement réduit à un corps. Je dis cela parce que c'est vraiment dans cette opposition entre vie biologique et vie politique que l'on va observer des résistances. Alors, comme on compare avec la prison, donc il n'y a pas vraiment de rébellion, de mutinerie ou d'émeute dans les CTE, mais il y a quand même une lutte pour rester humain. Les individus vont réclamer des contacts avec leurs familles. Les familles vont venir les voir dans les CTE, leur apporter de la nourriture. Rappeler que ces personnes, en fait, elles ont un nom, elles ont un prénom, elles ont une appartenance autre que celle d'être simplement un corps contaminé.
Alors, est-ce qu'on pourrait approfondir, peut-être d'un point de vue historique, cette comparaison ? Tu sais sans doute qu'au moment de l'installation des prisons coloniales sur le continent, la logique de contrôle des populations va de pair avec une logique de mise au travail. Et cette notion de mise au travail, elle perdure jusqu'à aujourd'hui, où dans les camps pénaux qu'on trouve dans les prisons rurales, les détenus sont là aussi pour travailler dans les champs. Alors, dans les CTE, est-ce qu'on peut parler d'une mise au travail des patients dans les CTE ?
Alors, je vais te répondre oui et non. Non, alors, ils ne sont pas vraiment au travail parce que, comme tu le sais, on a affaire à des gens qui sont gravement malades, qui vont peut-être séjourner 15 jours tout au plus dans le CTE s'ils survivent. Cependant, ces patients ne produisent pas, ils effectuent quand même un travail puisque, en fait, ils protègent la société. Leur corps est au travail afin de protéger la société. On voit donc ici ces tentes de quarantaine, donc il y a quand même quelque chose qui se passe là-dedans. Parce que le travail des patients, c'est vraiment de faire barrage avec leur corps à la propagation du virus. Donc en fait, ils protègent le reste de la société en sacrifiant leur propre personne. Et ça, c'est un travail très très important. Ensuite, il ne faut pas oublier que dans ces CTE, il y a de nombreux essais cliniques. Donc on teste des médicaments qui n'ont pas encore de licence sur les patients. Également, afin d'étudier le virus, on va prendre leur sang, leur sperme, leur sécrétion vaginale, les larmes, le lait maternel, afin d'étudier le virus. Et donc, le corps des patients, en fait, va produire une valeur économique sur le marché pharmaceutique mondial.
Oui, je comprends. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur la généalogie du CTE ? D'où vient cette forme de prise en charge ?
Alors, il faut vraiment ici inscrire les CTE dans la généalogie dans l'histoire au long cours de la dévaluation de la vie noire. Donc les CTE, ils résonnent vraiment avec ce processus, avec cette histoire de déshumanisation qu'on peut retrouver tant dans les politiques esclavagistes que dans le contrôle des populations par le pouvoir colonial. Et tu sais sans doute que la forme des CTE, la forme des camps n'est pas du tout inédite en Afrique puisque les camps et l'enfermement sont le modèle de gestion des épidémies à l'époque coloniale. Et donc je te renvoie ici au livre de Guillaume Lachenal, le médecin qui voulut être roi.
Très bien, je te remercie pour toutes ces informations. Est-ce que tu pourrais peut-être, pour terminer notre entretien, répondre à une question qui me brûle les lèvres ? Est-ce que ce dispositif sauve des vies ?
Alors, je vais te répondre oui, cela sauve des vies, mais lesquelles ? Parce que les CTE, ils ont permis avec d'autres initiatives, telles que les essais vaccinaux, d'étouffer le virus. Et donc, cela, je vais te répondre avec un peu de provocation. Oui, cela a sauvé des vies, mais cela a sauvé nos vies. Parce que ces lieux d'enfermement, en fait, ils ont surtout empêché le virus de sortir du continent africain. Et on voit ici donc un soignant en costume de protection qui est en train de vaporiser aux alentours du centre afin d'éviter que le virus se propage. Donc ensuite, avec un peu moins de provocation, je vais te répondre évidemment que les efforts de la communauté internationale ont permis à des gens de survivre, de sortir vivants de ces centres. Mmh. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont vraiment constitué des lieux de mise à l'épreuve de l'humanité, parce qu'on n'y a pas traité les patients comme des êtres humains, mais comme des corps. Et donc les CTE sont vraiment des lieux qui révèlent la persistance de la ségrégation raciale et politique dans le monde contemporain. Et de même qu'avec la prison, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire l'économie de se poser la question de la légitimité de ces lieux.
Bien, il me reste à te remercier, Véronica. Merci beaucoup pour cette analyse tout à fait éclairante.
Merci à toi, Frédéric.